Les cours du Collège de France, Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron.
Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Encore ? Bon, d'accord, encore. C'est sur ce mot encore que s'achevait la semaine dernière la séance. Ce mot qui scelle, sans nul doute, la formule du désir. Il barre la couverture de l'édition du séminaire que Jacques Lacan consacrait en 1973 à la jouissance féminine. Et pas seulement parce que la dite couverture s'orne aussi de l'image de la sainte Thérèse d'Avila telle qu'elle fut sculptée en son extase mystique par le Bernin à Rome, mais parce que ce que la sainte appelait « ma douce caresse d'amour », prenant la forme, vous vous en souvenez, d'une flèche dorée qui délicieusement la transperçait, pouvait être pareillement décrite comme cette douce blessure dont parle Origène lorsqu'il commente le Cantique des Cantiques qui nous a arrêtés la semaine dernière. Douce blessure et douce caresse, telle est la véhémence de l'amour qui, même si on la nomme caritas, déborde toujours la volonté des moralistes de mise en ordre des émotions, reposant sur un strict partage entre le spirituel et le charnel, au point que Georges Duby a pu s'effrayer de la mainmise des prêtres sur le corps des femmes, n'accordant à leurs maris pourtant fervents aucun frémissement de l'âme. Alors qu'avons-nous vu ? Du XIIe au XVIe siècle, le flot des commentaires du Cantique des Cantiques n'éteint jamais le feu de la pulsion érotique sous l'eau lustrale de l'allégorie, qu'elle soit nuptiale, ecclésiologique ou mystique. Le corps y demeure toujours visible, comme lieu de nouage entre poétique et politique de l'amour, le corps, insécable noyau de nuit, scintillant en ses lisières. Car entre l'époux qui nomme et blasonne et l'épousé qui lui ouvre son jardin clos, s'instaure un dialogue amoureux qui, par fragments, prend acte de la sortie définitive du paradis originel. Commence alors, on l'a vu, l'aventure du gouvernement, c'est-à-dire des relations de pouvoir traversant les corps parlants pour conduire leur conduite sur un mode qui, on l'a compris, demeure pastoral. Le plus beau de tous les chants, Shir Hashirim, ou comment s'en débarrasser. L'amour comme un boomerang me revenant des jours passés. Et la glose biblique de nos clercs médiévaux, agités d'un cœur blessé, cette glose qui ne s'assagit jamais à devenir plus savante, fait du Cantique des Cantiques, sinon l'autre Bible de l'Occident, comme je l'ai imprudemment avancé, du moins la faille en elle, la déchirure de cette blessure d'amour qu'il nomme, selon la belle formule de Jean-Louis Chrétien. Alors, continuons à la suivre, cette faille qui lézarde silencieusement le bel agencement dogmatique de la charité, puisque, vous l'avez compris, ce que je cherche ici, dans ces politiques de l'amour, c'est moins le ciment des sociétés politiques ou l'édification de l'Occident chrétien que l'un des principes actifs de leur histoire. Le fait qu'il y ait bien une histoire des pouvoirs qui ne se laisse jamais totalement subjuguer ou immobiliser dans une structure de domination. Et pour la saisir, il faut voir venir. C'est-à-dire, comme l'écrivait Gilles Deleuze, lecteur des romans de Zola, aller jusqu'où va la fêlure. C'est ce que nous allons continuer à faire dans les trois séances qui viennent et qui nous permettra, après la courte pause de février, où nous reprendrons notre élan, d'enchaîner ensuite chronologiquement une histoire des pouvoirs sous le regard de ces politiques de l'amour qui tantôt les confortent et tantôt les contestent, puisque la marche, y compris celle du temps historique, c'est ce que je comprends en ce moment, est une alternance de chute évitée ou contrôlée. J'arrête là parce que je vais finir par annoncer un programme, ce qui n'est vraiment pas mon genre, mais je me méfie aussi un peu de moi-même et de cette fâcheuse tendance qu'ont les lettrés de se lover amoureusement dans un monde de textes, même si on a compris dès la première séance combien l'amour des livres, comme celle de l'ivresse, était animé de la même libido qui faisait de la mort, pour les aristotéliciens et leurs commentateurs arabo-latins, le principe actif d'un mouvement général de l'univers. Mais de ce point de vue, la leçon de la semaine dernière suggérait peut-être une parade, désignant le point de fuite vers cette histoire sociale qui demeure ultimement notre visée. Souvenez-vous de Bernard de Clairvaux, commentant fiévreusement le Cantique des Cantiques. Fiévreusement parce qu'il était malade, parce qu'il partageait cette vulnérabilité avec son disciple Guillaume de Saint-Thierry, qui l'aimait tant qu'il ne pouvait se résoudre à quitter celui qui était assurément l'homme de sa vie. Et l'un et l'autre qui faisaient de la faiblesse du corps une porte d'entrée pour la force du texte. Il y avait sans conteste une ivresse exégétique dans ce désir fou d'aller chercher ce commencement sans commencement, une telle nouveauté de l'expression dans un livre si récent, écrit Bernard de Clairvaux, et c'est vrai qu'on pourrait s'y reconnaître absolument. Mais le Cantique des Cantiques était pour le réformateur de l'ordre cistercien un chant d'amour, et si c'était un chant d'amour, c'est en tant qu'il chantait la connaissance de soi par l'expérience. Et dès lors, sa portée herméneutique résidait moins dans la révélation d'un sens caché que dans la description de l'effet qu'il produit dans nos existences. Aujourd'hui, nous lisons dans le livre de l'expérience, affirmait donc Bernard de Clairvaux dans son troisième sermon sur le Cantique des Cantiques, et c'est muni de ce viatique que nous poursuivons notre chemin pour aller voir jusqu'où va la fêlure. Il y a les livres que nous relisons sans cesse dans l'ivresse du « encore », et ceux que nous préservons indemnes des revisites, craintifs, inquiets, jaloux peut-être, parce que l'on se sent les filles et les fils de cette expérience qu'on en fit un jour, et que l'on veut d'abord garder scrupuleusement le souvenir du temps même de ce petit fracas. Pour ma part, dans cette catégorie, il y a « Ada ou l'ardeur » de Vladimir Nabokov, mais aussi, comme beaucoup je crois, « Belle du Seigneur » d'Albert Cohen. Ce livre qui se donne comme une somptueuse mélopée de l'amour-passion pour en disséquer impitoyablement tous les scandales. Quelque chose comme l'anatomie d'une chute. Dans son essai publié en 2021 sous le titre « Réinventer l'amour, comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles », Mona Chollet a eu plus de courage que moi, je la cite. « Lorsque j'ai découvert Belle du Seigneur il y a 25 ans, j'étais une de ces midinettes qui rêvent d'amour miraculeuse, pour reprendre les mots de Denis de Rougemont. » Tiens, Denis de Rougemont, on va le retrouver tout à l'heure. Il m'a fallu du temps pour mesurer tout ce qui n'allait pas dans sa vision de l'amour, comme dans sa vision des femmes. De ce point de vue, elle a raison de suggérer combien la très médiocre adaptation scénographique du roman de 2012 peut aider celles et ceux qui le souhaitent, on n'est pas obligé, à se déniaiser face au roman d'Albert Cohen. Parce que séparé de la splendeur de sa langue, la noblesse des sentiments, c'est le titre de la séance d'aujourd'hui, la noblesse des sentiments trahit toujours la réalité crue d'une domination, en l'occurrence ici sociale et sexuelle. Alors pour moi, on ne saurait en conclure à la fonction amnistiante de la mise en beauté littéraire. Mais au contraire, à la prise en compte des effets de la langue pour saisir de manière pragmatique ce qu'est une expérience de lecture. Le psychanalyste et philosophe Stéphane Habib l'a fort bien dit dans son livre « La langue de l'amour », celle que parle Albert Cohen dans « Belle du Seigneur » dit, tantôt de manière caressante, tantôt de manière sarcastique, l'impossible fusion d'un désir passionnel, sinon dans la mort. Soit, par exemple, ce passage où Ariane regarde Solal dans son sommeil. Attendri, elle aimait le regarder dormir, aimait veiller sur son sommeil, sommeil d'un inconnu considéré avec une étrange pitié, un inconnu qui était maintenant toute sa vie. La belle veille son seigneur, et nous retrouvons ce thème de l'antécédence et de la vigilance qui tisse l'érotisme politique de la notion de veille. Je cite encore. « J'ai un étranger dans mon cœur, pensait-elle, et silencieusement, elle lui disait tant de mots, les plus fous et les plus religieux, mots qu'il ne connaîtrait jamais. » En 1930, lorsqu'Albert Cohen commença à écrire sa somme romanesque, qui aurait dû s'appeler « Solal et les Solales » ou « La geste des Juifs », une tétralogie dont « Belle du Seigneur » parue en 1968 n'était que le dénouement. En 1930 donc, il publia également une courte pièce de théâtre intitulée « Ézéchiel ». C'est que la culture biblique est une des clés de ce roman bercé de litanie. « Tu lui diras, le cantique de ton désir, se persuade Solal. Car il est ce Messie qui séduit l'amoureuse comme le Christ sauveur entre à Jérusalem, mais il porte aussi le tourment de l'origine et la pensée de l'impossible retour. Et la voix de Solal dit aussi l'angoisse du parvenu lorsqu'elle se détache du cœur des valeureux, ce cœur qui fait de l'œuvre d'Albert Cohen la plus bouleversante des odes à la fraternité, fraternité dans laquelle l'amour miraculeusement se sauve. Enfin, il incarne également cette figure du paria dont nous a parlé Antoine Lilti hier, mais qui est aussi le paria, celui qui sent venir la catastrophe, puisque le personnage romanesque de Cohen est devenu de Solal est devenu dans Belle du Seigneur sous-secrétaire général de la Société des Nations et qu'il est le seul à comprendre la montée du nazisme et que tout le cycle romanesque accompagne une double mystification, celle de ce qu'il appelle, mot solalien par excellence, les babouineries de l'amour-passion et celle de la guerre comme passion mortifère. Si bien que ce roman, censément sentimental, trouve un de ses points culminants dans une scène grotesque, apparemment incongrue, souvent incomprise, qui prend le lecteur par surprise à l'issue du grand monologue intérieur de Solal, 100 pages, où, plongé dans la nuit de son mortel ennui, il se laisse visiter par les cauchemars de l'histoire, et notamment s'il y a toute une plongée dans le Moyen-Âge. « Oh, comme je m'ennuie, oh, des barques de squelettes me suivent, elles rasent le fleuve le long des temples à milliers de fenêtres. » Alors, les visions des camps d'extermination et celles des bûchers médiévaux se confondent. « Oh, tous les miens du Moyen-Âge qui ont choisi la mort plutôt que la conversion. » Et ce, jusqu'à cette image sidérante de ces noces mystiques avec une naine juive nommée Rachel dans une cave de Berlin livrée aux nazis. Tout cela, Philippe Zahr l'a brillamment analysé dans sa thèse de littérature comparée parue en 99 sous le titre « La fiction de l'Occident ». Thomas Mann, Franz Kafka, Albert Cohen. C'est en ce sens que Belle du Seigneur peut être rapprochée fort utilement pour nous de ce livre qui domina longtemps l'historiographie de notre sujet et qui prétend lui aussi faire de l'amour le roman de fondation de l'Europe occidentale, L'amour en Occident, de Denis de Rougemont, paru en 1939, c'est-à-dire l'année même de Sur le processus de civilisation de Norbert Elias. Et pareillement, au fond, il est hanté par la prophétie spenglérienne du déclin de l'Occident. Et pareillement, Denis de Rougemont y dissèque le cœur vénéneux de ce qu'il appelle notre psyché occidentale à la recherche de ce goût de la mort qu'il dissimule. Et il le trouve dans ce culte de l'amour-passion qui s'exprime d'abord dans une noblesse de sentiments, faisant de l'amour une passion aristocratique avant que, je cite Denis de Rougemont, le culte de l'amour-passion ne se soit tellement démocratisé qu'il perde ses vertus esthétiques et sa valeur de tragédie spirituelle. Donc on retrouve, c'est ce qu'il appelle les vulgarités. Donc on retrouve évidemment une morgue sociale qu'Albert Cohen connaissait aussi. Telle est donc la visée morale et politique du livre, écrit par ce philosophe qui appartenait au groupe qui, autour de la revue Esprit et du personnalisme de Mounier, est caractérisé par ce que l'on appelait les non-conformistes des années 30. C'est un penseur de l'engagement des intellectuels, avant Sartre, qui ne l'aimait guère et avait publié un compte-rendu sévère de l'amour en Occident dans lequel il ne voyait qu'un bel amusement. C'est un théologien, lecteur attentif de Kierkegaard, et notamment de ses œuvres de l'amour dont nous parlâmes lors de la deuxième séance. Et c'est aussi un ardent défenseur du fédéralisme européen, très sourcilleux sur ses quartiers de noblesse suisse. De là, sans doute, une forme, je l'ai dit, d'assurance et de morgue qu'il partageait avec son compatriote suisse Albert Cohen, familier des mêmes instances internationales. Mais si le livre a eu sur l'historiographie une telle portée, c'est parce qu'il faisait du fol amour de Tristan et Iseut, profondément égalitaire et violemment érotique, l'un des mythes fondateurs de l'Occident. Seigneur, vous plaît-il d'entendre un beau conte d'amour et de mort? Ainsi débute le roman de Tristan et Iseult que le philologue Joseph Bédier compile en 1900 à partir des différentes versions médiévales de ce mythe littéraire qui, on le sait, puise ses sources dans le roman antique et les traditions orales celtiques et dont la version commune connaît une première mise par écrit dans le dernier tiers du XIIe siècle. Soit, pour l'essentiel, le roman de Tristan de l'anglo-normand Béroul, 1170, le Tristan de Thomas d'Angleterre, 1175, le lait du chèvrefeuille de Marie de France et les deux poèmes de la folie Tristan, de datation incertaine, mais peut-être plus précoce, antérieure, et les versions des poètes allemands Eilhard d'Auberg, avant 1190, et Gottfried de Strasbourg, vers 1210, suivi de la saga norroise de frère Robert en 1226, et puis leur continuation tchèque, scandinave, italienne. Ça, c'est un premier ensemble, disons, de romans en vers, qui se distingue des romans qui, en prose, ensuite réintègrent l'histoire des amants de Cornouailles dans le cycle arthurien des Chevaliers de la Table Ronde, en regard des amours de Lancelot et Guenièvre. Et il s'agit donc du roman de Geoffrey, anonyme, du début du XIIIe siècle, mais surtout de l'immense Tristan en prose, des années 1230-1240, attribué à Luz de Gart et Élie de Boron. Donc, c'est toute cette matière médiévale que Joseph Bédier a adaptée. Et en fait, quand on parle de Tristan et Iseult tel que le XXe siècle en parle, c'est cette compilation dont on parle. Je vous renvoie pour ça au livre tout récent, 2022, de Michel Zinc, Tristan et Iseult, un remède à l'amour, où il parle effectivement de cette compilation de Bédier, scrupuleusement fidèle aux sources médiévales. Il leur donne pourtant en 1900, on ne sait comment, une légère coloration Paul Bourget. Denis de Rougemont ne se souciait évidemment pas de philologie, il s'empare tel quel de ce légendaire qu'il traite comme un grand mythe européen, et le mythe de l'amour. Alors je laisse évidemment ici de côté la discussion de la notion de mythe et de mythographie, qui devrait tenir compte aujourd'hui de la mise en discussion de ce concept par l'historiographie de la Grèce antique, notamment depuis les travaux de Claude Calam, qui démontre que rien n'est plus étranger, au fond, au mythe grec que la notion moderne de mythologie qui compilerait différentes versions d'une même histoire en partant du principe justement que c'est la même histoire, alors qu'en fait non, il n'y a pas de variante, il y a juste différentes versions et il n'y a pas de récit unifié. Mais pour Denis de Rougemont, comme pour tous ses contemporains, cette unité ne faisait pas de doute. Même s'il pensait que la mise en roman de la légende tristanienne, donc dans les années 20 du XIIIe siècle, était déjà une profanation du mythe courtois. Mais que celui-ci devait se ressaisir à rebours à partir de l'opéra de Wagner. Tristan et Iseult, 1865, parce que Wagner, au fond, a vendu la mèche. Il a tout dit, je cite Denis de Rougemont, tout avoué par les paroles de son livret, et en ce sens, il achève le mythe. Et tout peut alors se dire simplement. Je cite Denis de Rougemont. Tristan et Iseult ne s'aiment pas, ils l'ont dit et tout le confirme. Ce qu'ils aiment, c'est l'amour, c'est le fait même d'aimer. Bon, ça, comme tout le monde. Bon. Mais comment progresse le roman? D'obstacle en obstacle, on le sait. Jusqu'à cette préférence accordée, typiquement courtoise, à l'obstacle voulu. Cette épée nue, entre deux, tranchante et froide, comme la périlleuse chasteté que les amants s'infligent, et désignant cet élan vers l'instant suprême où la totale puissance est de sombrer. Ainsi donc, grand thème politique, quand même, l'abdication ou la chute comme moment de puissance. Ainsi donc, l'amour de l'amour même dissimulait une passion beaucoup plus terrible, une volonté profondément inavouable, je cite évidemment Denis de Rougemont, sans le savoir, les amants, malgré eux, n'ont jamais désiré que la mort. Dès lors, la découverte de ce secret replié, comme dirait Ibn Hazm, dans l'amour, cette pulsion de mort, qui en est moins le double que la doublure, la maladie de la mort, aurait dit Marguerite Duras, ou tout ce que la psychanalyse pourrait inventer de néologisme pour dire, sans virgule, l'amour, la mort. Et pourquoi pas, en effet, cet amour, A-M-O-U-R-T, qui, pour Stéphane Habib, hante ou habite ou agite, belle du Seigneur. Cette découverte, donc, amène Denis de Rougemont à esquisser l'histoire parallèle des formes de l'amour et des formes de la guerre en Occident. Alors, d'une certaine manière, c'est une histoire assez convenue, sans doute, qui mène de l'amour courtois aux liaisons dangereuses. On notera au passage que dans le roman épistolaire de Choderlos de Laclos, au vicomte de Valmont qui impose un ultimatum à la marquise de Merteuil, vous voyez que la réponse que je vous demande n'exige ni longue ni belle phrase, deux mots suffisent. Cette dernière lui répond par la plus courte et la plus belle des lettres d'amour, eh bien, la guerre. Car deux mots suffisent, en effet, à Denis de Rougemont. Toujours les mêmes, l'amour, la guerre, la mort. Pour brosser l'histoire désolante du langage guerrier de l'amour, qui est celui, pour lui, il n'en doute pas, du lent déclin des valeurs courtoises de l'aristocratie européenne. Chassé du champ de la guerre chevaleresque, et précisément parce que ce n'est plus le champ clos, mais qu'il vise l'illimité de la guerre totale, la passion se transporte en politique. Et ici, l'amour en Occident trouve 1939, le même point de répulsion que le cycle romanesque contrarié d'Albert Cohen. La ferveur des foules hitlériennes, charmée par un filtre d'amour plus puissant encore qu'aurait pu l'imaginer Wagner, Denis de Rougemont décrit ainsi le ravissement des masses par la passion mortifère du nazisme comme un effet du discours d'Hitler qui, je le cite, « se fâche et se plaint en même temps ». Il ne persuade pas, il envoûte. Il invoque ensuite le destin et affirme qu'il est ce destin. De la sorte, il délivre la foule de la responsabilité de ses actes, donc du sentiment oppressant de sa culpabilité morale. Elle se rend au sauveur terrible et le nomme son libérateur dans l'instant même qu'il l'enchaîne et la possède. Alors, nous sommes-nous éloignés du Tristan ? Oui, sans doute. Mais c'était pour aller jusqu'où va la fêlure et suivre la visée morale et politique du livre de Denis de Rougemont, qui est profondément engagé dans son temps. Il y instruit le procès de l'amour-passion qui scelle pour lui la pulsion de mort de l'Occident, mais il exalte en même temps l'institution du mariage bourgeois comme rempart contre la barbarie, et ça, je pense que ça ne nous concerne plus guère aujourd'hui. Enfin, j'espère. Du strict point de vue des médiévistes, on pourrait faire le même constat. Il y a plein de choses dans le livre de Denis de Rougemont. Pourquoi on nous a donné à lire ça dans nos études ? Les gens de ma génération, c'est quand même très mystérieux. Bon, enfin, c'était une lecture obligatoire, hein. Faut savoir. Hein. Bon, du strict point de vue des médiévistes, on pourrait faire à peu près le même constat. Ça ne nous concerne plus tout à fait, et ça pourrait justifier le dédain ironique de Paul Zumthor, qui congédiait l'amour et l'Occident comme un livre naguère célèbre, et ce dès 1952. Dans un ouvrage intitulé « Miroir de l'amour » qui entreprenait précisément de le réécrire. C'est que le Tristan de Denis de Rougemont, je l'ai dit, et pour des raisons que j'ai tenté d'expliquer, n'est pas tout à fait médiéval. Sa définition de la lyrique courtoise comme une mystique et qui plus est inspirée de l'ascétisme supposé de l'hérésie cathare, n'est absolument, n'a jamais été retenu, ne repose sur rien, même si lui n'a cessé de le réaffirmer dans les rééditions de 1956 et 1972. Et surtout, la passion amoureuse de Tristan et Iseult ne peut valoir pour modèle de l'amour courtois. Comme le montrent fort bien les travaux récents d'Alain Corbellari, cette passion est fondamentalement, chez Tristan, est fondamentalement égalitaire, et c'est en cela qu'elle est un fol amour, lié au scandale et à la mort, ce qui n'est pas le cas du fin amour, qui triomphe dans la littérature aristocratique que l'on dit courtoise, qui présente également des configurations d'amours adultères, on va y revenir, mais qui est fondamentalement inégalitaire. Donc, il y aurait pour Alain Corbellari une sorte de triangle entre le fol amour, Tristan et Iseult, fin amour, la lyrique occitane, et le bon amour, bon amour, qui raconte une autre aventure, celle de l'amour dans le mariage, qui, contrairement à une idée récente, enfin un peu tenace, est pleinement dans la littérature courtoise également. Or, les différentes versions du légendaire tristanien, qui, je le répète, ne sont des variantes que pour ceux qui croient en l'unité du mythe, doivent être saisies dans la dynamique narrative de leurs transformations successives. Ce qui énervait Jean-Paul Sartre, d'ailleurs, dans la lecture de Denis de Rougemont, c'est que l'insistance sur le filtre que Tristan aurait bu par erreur, alors qu'il était destiné au mari légitime, c'est ballot, un truc, bon, son oncle, le roi Marc, éloigne évidemment l'amour de l'expérience existentielle de la liberté. Je cite Sartre dans ses carnets de la drôle de guerre, parce qu'il avait écrit dès 1939 le compte-rendu de Denis de Rougemont, mais il y était revenu ensuite. Pour moi, j'ai toujours lu avec un déplaisir secret cette histoire de filtre chez Wagner ou Bédier. Si Tristan et Iseult étaient affolés par un filtre, ils ne m'intéressaient plus le moins du monde. Leur amour n'est qu'une maladie, un empoisonnement du sang. Et il n'a pas tort. D'abord parce que, effectivement, Denis de Rougemont est en effet très dépendant de la version de Béroul et de son amplification, explicitation lyrique chez Wagner. Et ensuite parce qu'une bonne part de la littérature chevaleresque, que l'on peut dire courtoise, naît précisément du même refus sartrien, si je puis me dire, de l'artifice romanesque de la potion magique. Ainsi, dans l'une des deux chanson courtoise que l'on a conservée de Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes, le père du roman de chevalerie. Nous reviendrons évidemment sur cette scène inaugurale autour de Marie de Champagne après la pause de février. Chrétien de Troyes affirme « Oncle du buvrage ne buit dont Tristan fut empoisonné. Je n'ai jamais bu du breuvage dont Tristan fut empoisonné. Et pourtant je suis amoureux. » Et dans Quijès, son deuxième roman courtois, écrit après Érec et Énide vers 1176, il polémique ouvertement et malicieusement contre la conception tristanienne. Son intrigue est bâtie sur la même configuration amoureuse que celle du roman de Béroul. Le jeune Cligès aime Phénis, la femme de son oncle, Alix, empereur de Constantinople. Mais lui n'a pas eu besoin de filtre pour en tomber amoureux. Et en plus, le romancier champenois fait d'une pierre deux coups. Non seulement il montre que, effectivement, l'amour ne naît pas d'un empoisonnement, en plus un empoisonnement accidentel d'un filtre qui était destiné au mari légitime, mais il déplace et réinvestit ce motif, puisque c'est en buvant un breuvage magique tous les soirs que Alix, l'oncle s'endort en croyant coucher avec son épouse. Ce qui permet à Phénis de ne pas partager son corps. C'est-à-dire, comme le dit assez crûment Chrétien de Troyes, de le donner à deux rentiers. Puisque la femme infidèle ne se donne plus à son mari légitime que dans ses rêves. Enfin, ceux du mari, comme Adrien d'Eume dans Belle du Seigneur, pas ceux de la femme. Bon. Et comme l'empereur Alix est un mauvais roi, ce qui n'est pas le cas du roi Marc de Tristan et Iseult, il meurt à la fin, ce qui permet à Cligès de monter sur le trône en épousant Phénis. La morale est sauve, y compris celle du mariage chrétien, mais aussi la liberté de l'amour. C'est quand même extraordinaire, Chrétien de Troyes. Et quand je dis qui est polémique. C'est, donc si c'est ça les bonnes dates, 1175, 1177, c'est 2 ans après. Donc, Chrétien de Troyes et Jean-Paul Sartre sont heureux, celui qui croyait au mariage et celui qui n'y croyait pas. La ruse romanesque d'Érec et Énide permet donc de résoudre cette énigme du partage des corps qu'Emmanuel Baumgartner a repéré dans le roman de Tristan de Thomas d'Angleterre. Et ce partage n'est pas celui que prônait Adam de Persègne en fonction d'une stricte séparation entre caro et spiritus, où Marie, le corps sec et froid de sa femme qui laboure comme un tenancier son lopin, à Dieu les frémissements de l'âme et la joie de la caresse d'amour. Non, non, c'est un partage inégal, sans doute, qui, plus simplement, est le partage d'une femme entre le mari et l'amant, également content et nullement jaloux. Et c'est ça qui a quand même toujours étonné les commentateurs. Le roi Marc ne semble pas vraiment en prendre ombrage. Et il faut l'insistance de ses conseillers pour qu'il consente à punir les coupables, ce qu'il fait, mais sans acharnement ni plaisir, en un mot, sans affect. Est-ce que, parce que, décidément, l'amour n'a rien à voir avec le mariage. Certains commentateurs se sont contentés de cette facilité bourgeoise d'une telle explication. Mais le schéma est exactement le même dans Le Chevalier de la Charrette de Chrétien de Troyes, composé entre 1177 et 1181. Je rappelle que le roman de Tristan de Thomas date probablement de 1175. Les amours de Lancelot et Guenièvre ne suscitent guère de jalousie chez Arthur, qui ne cesse de louer la beauté et la bravoure de son jeune chevalier, qui en fait, on a le sentiment, n'a Dieu que pour lui. Or, la mise en prose de ce roman en vers au début du XIIIe siècle change tout, et pas seulement du point de vue des formes littéraires. Et là encore, la conjoncture chronologique est remarquable, puisque la composition du Tristan en prose est strictement contemporaine de celle du Lancelot en prose, dans les années 1220-1240. Alors ça prend, c'est une composition au long cours, parce que l'écriture continuée leur donne une toute autre ampleur littéraire, parce qu'il faut insérer les amants passionnés et adultères Tristan et Lancelot dans l'aventure arthurienne, parce qu'il faut leur donner également une généalogie. Tout cela enrichit la matière narrative en lui donnant une coloration plus évidemment politique. Mais attention, mise en prose ne signifie pas ici explicitation prosaïque, clarification ou profanation, comme le disait Denis de Rougemont. Elle œuvre au contraire à donner au roman, en tant qu'il est déjà cet art de l'ambiguïté dont parlera Milan Kundera, une portée d'autant plus puissante du point de vue de l'histoire des pouvoirs qu'elle est ambivalente. Alors continuons toujours à suivre la fêlure. C'est ce qu'on comprend en relisant aujourd'hui un article moi, que j'ai toujours trouvé éblouissant et à bien des égards fondateur, paru dans les Annales en 1981 sous le titre « Amour courtois, société masculine et figure du pouvoir ». Son autrice, c'est Christiane Marchelonisia, linguiste, médiéviste, qui travaillait alors, c'est intéressant, avec Michel Perrault, à Paris 7, sur la transgression des interdits sexuels dans la littérature. Et c'est dans cette perspective qu'elle analyse l'histoire parallèle des romans en prose de Lancelot et de Tristan. Et on retrouve ici la question du filtre dans l'aventure érotique des amants adultères. Tristan tombe amoureux d'Iseute avant de boire la potion. Et là encore, tout réside dans une histoire de regard, histoire d'œil. Lors d'un tournoi, voici un chevalier qui s'avance. Je suis dans le Tristan en prose. Il est jeune, il est magnifique. Ses armes sont noires et c'est un sarrasin. Son nom, Palamède. Aussitôt, il éblouit le roi d'Irlande. Mais lui, Palamède, n'a Dieu que pour sa fille, la fille du roi, Iseute, dont il tombe aussitôt amoureux. Vous voyez ça, ça triangule méchamment. Et voilà la scène décisive. Tant regarde Palamède Iseut que Tristan s'en aperçoit et bien connoit à son semblant qu'il l'aime de tout son cœur. Palamède regarde Iseut d'une telle manière que Tristan s'en aperçoit et comprend à son attitude qu'il l'aime de tout son cœur. Auparavant, il était arrivé bien des fois à Tristan de croiser le regard d'Iseut et elle lui plaisait, mais il n'était jamais arrivé jusqu'à l'aimer réellement. Donc, la trajectoire du désir, elle est très clairement dessinée. Tristan ne désire pas Iseut, il désire le désir que Palamède a pour elle. C'est par son regard qu'il la voit vraiment. Ce qu'il voit d'abord, c'est une rivalité masculine. Et c'est pas parce qu'ils aiment la même femme qu'ils deviennent rivaux, c'est parce qu'il veut être son rival qu'il tombe amoureux de la même femme. Ainsi entra en orgueil et en bobant Tristan pour les amours Madame Iseut. Ainsi l'orgueil de Tristan fut-il piqué au vif par les amours de la noble Iseut. Et le mot là, c'est bobant, c'est-à-dire c'est une forme très luxueuse, très ostentatoire de l'orgueil. Il y a l'orgueil, il y a ensuite l'amour. Un amour fou, inséparable d'une haine mortelle pour son rival. Je cite encore, « Dès qu'il vit que Palamède s'était épris d'elle au point de penser qu'ou bien elle serait à lui, ou bien il mourrait, Tristan se dit en lui-même que Palamède, quoi qu'il pût faire, n'obtiendrait jamais la jeune fille. » Eh bien, la guerre. Elle sera impitoyable parce que Palamède est violent. Parce qu'il est sarrasin. La lutte entre les deux chevaliers est haineuse, acharnée dans le Tristan en prose. Et c'est d'ailleurs ce déchaînement de brutalité qui empêche la paix entre les deux rivaux, qui provoque la ruine du monde arthurien, qui est consommé dans la mort du roi Arthur, parce que désormais, les héros ne meurent plus d'amour. Ils meurent dans la guerre. On pourrait s'interroger d'ailleurs sur l'intrusion de la figure d'un sarrasin dans cette histoire d'amour et de mort, elle-même est ambivalente. Puisque si Palamède est porteur d'une brutalité inédite dans l'exercice de la guerre, il est aussi porteur d'un nom, le nom de ce héros mythologique grec, adversaire d'Ulysse, mais aussi pour Platon, dans la République, Palamède, c'est l'inventeur de l'arithmétique, de l'ordre des batailles, des poids et mesures, des signaux de feu qui permettent de transmettre les messages, et du jeu d'échecs. Et c'est d'ailleurs ce damier que le personnage romanesque arbore sur ses armoiries imaginaires. Dans sa thèse sur les enluminures du Tristan en prose, Alexandra Illina a repéré l'ambivalence de cette figure, surtout dans le contexte italien de ses reprises à la cour de Frédéric II, en Sicile, où Palamède incarne les valeurs communes que partagent la chevalerie chrétienne et l'aristocratie équestre de la Fouroussia en terre d'islam. Valeurs communes dans l'art d'aimer comme dans l'art de combattre. Si bien qu'on pourrait dire que le vrai filtre d'amour qui empoisonne ou qui enchante ou qui charme l'amour courtois en ses commencements est cet héritage gréco-arabe, donc platonicien. C'est pas exactement ce qui intéresse Christiane Marchelonisia. Ce qui l'intéresse, c'est le sens politique de ces déplacements du désir vers les figures du pouvoir. Puisque dans le schéma courtois, le jeune chevalier tombe amoureux de la dame de son seigneur. Que désire-t-il vraiment, sinon le signe de sa puissance? Elle naît une figure, elle est au sens propre une expression figurée des relations de séduction doublant affectivement les rapports de pouvoir. Et voilà pourquoi le langage de l'amour reprend toujours en retour celui de la relation vassalique faite de devoirs réciproques mais aussi de valorisation de la prouesse guerrière. Ainsi, la fiction littéraire transforme une domination en dilection. Diffère, neutralise un pouvoir impatiemment subi et jalousé en une relation élective et gratifiante. Voilà donc son hypothèse, la relation amoureuse, courtoise, entre Tristan et Iseut, ou entre Lancelot et Guenièvre, est, je cite, l'expression déplacée, différée, d'un autre type d'amour encore plus transgressif, encore plus occulté, un amour homosexuel ou tout au moins une relation de séduction réciproque entre le Seigneur et le jeune homme. Alors, je laisse pour le moment de côté la question de l'imputation d'homosexualité, qu'on ne retiendrait peut-être plus aujourd'hui, et on le discutera la semaine prochaine. Mais ce qui est certain, c'est que l'analyse de Christiane Marchelonisia a eu une grande influence sur les explicitations historiennes du fin amor, comme, disons, euphémisation de la dureté des rapports sociaux dans le système féodal. C'est-à-dire que sous couvert de la sublimation des figures féminines, l'amour courtois serait une histoire d'homme, une compétition, où l'expérience sentimentale est le pendant de la joute ou du tournoi. C'est donc autour du motif de la compensation symbolique, disons, que se développent les analyses historiennes du roman arthurien, de la lyrique occitane, dont on se demande toujours si, au fond, c'est un art d'aimer ou un art poétique. Et ainsi, selon le grand philologue allemand Rüdiger Schnell, il y aurait moins un amour courtois qu'un discours courtois sur l'amour. Georges Duby, je crois très dépendant de cette analyse de Christiane Marchelonisia, lorsqu'il affirme que le sens historique de cette fiction romanesque ne doit pas être cherché dans un reflet, mais dans un effet. D'ailleurs, on retrouve ici la conception pragmatique de l'expérience littéraire que l'on évoquait au début avec Bernard de Clairvaux, et que si les simulacres de désir se déploient autour de l'épouse du Seigneur, elle n'est qu'un leurre dans cette parade du pouvoir qui divertit les jeunes chevaliers soumis aux rigueurs de l'ordre lignager. Lisons par exemple une pièce poétique anonyme, on pourrait citer bien d'autres, comme le lait de Graland, qui est transmis par trois manuscrits avec les laits de Marie de France, donc on ne sait pas très bien quels sont les rapports, et qui participe de cette lyrique narrative. C'est 756 vers octosyllabiques à rime plate, et par sa forme et par son ton, ça s'apparente aussi beaucoup au fabliau. Ça raconte que chaque année, à la Pentecôte, le roi Arthur rassemble ses barons et à la fin du repas, fait monter sa dame sur un banc haut, la dénude, et demande à la compagnie qui a déjà vu une femme aussi belle. Tous devaient chanter ses louanges et affirmer au roi qu'ils ne connaissent aucune jeune fille d'une beauté comparable, tous sauf Graland, pauvre breton, qui rit sous cape, qui pense à son ami, la reine s'en offusque, le roi organise un concours de beauté, enfin, commence une histoire, un fabliau, précisément parce qu'il y en a un qui n'y croit pas. Donc c'est là, disons, la faille populaire, en l'occurrence. Évidemment, il nous est effectivement difficile de ne pas interpréter cette situation initiale, comme le suggère Christiane Marchelonisia, et après elle, Georges Duby, c'est-à-dire comme une parade obscène de la domination masculine où la femme nue est exhibée comme un trophée. On comprend la scène. Mais peut-être qu'on ne la comprend que trop, si on croit l'avoir déjà vue dans un film de Bertrand Blier ou autre. C'est que il y a là une sorte d'évidence herméneutique qui doit éveiller notre soupçon, cet emportement à se dire bah oui, on comprend très bien de quoi il retourne. Parce que cette histoire de la catégorisation de l'amour courtois, qui depuis Denis de Rougemont, mais en fait bien avant lui, en fait est toujours une construction en miroir, ce que je tente de montrer aussi, de nos hantises contemporaines. Et c'est d'ailleurs l'histoire intellectuelle que reconstitue Zrinka Stahuljak dans ce livre important que j'avais déjà cité à la première séance, « L'archéologie pornographique, médecine, Moyen-Âge et histoire de France », qui est paru dans sa traduction française en 2018. Et elle montre comment le père fondateur des études de littérature médiévale, Gaston Paris, a théorisé sa discipline par opposition à l'histoire des mœurs pratiquée par son propre père, et lui aussi professeur au Collège de France, Paulin Paris, et la philologie romane telle que l'a construit le fils, Gaston Paris, fait de la littérature médiévale, à la fois, je le cite, le premier chapitre de nos mémoires de famille, et je le cite aussi, l'expression de la vie nationale. La littérature médiévale devait être pour cela moralisée, c'est-à-dire épuré de ce que Gaston Paris appelait ses trivialités, et notamment ses contes et fabliaux, publiés dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, par Étienne Barbazan en 1756, ou Le Grand Dossi en 1779, l'un et l'autre y voyant des documents de premier ordre sur les mœurs de nos pères. Au XIXe siècle, la philologie s'emploie au contraire à orientaliser cette littérature pour mieux l'éloigner de l'histoire nationale. Les fabliaux sont distrayants, mais ils choquaient déjà autant jadis, et surtout, ils sont, dit Gaston Paris, étrangers à l'esprit français, marqué par la galanterie raffinée et de son aristocratie. Dans son livre « Les contes orientaux dans la littérature française du Moyen-Âge » paru en 1873, Gaston Paris soutient la thèse, qui évidemment totalement imaginaire, cette origine extra-européenne, de ces textes populaires et grossiers, et croit même savoir qu'ils ont leur cause et leur origine à l'extrémité de l'Orient. Voici pourquoi les fabliaux n'ont rien à faire dans la littérature française. Je cite encore, « Quant aux contes innombrables, presque toujours plaisants, trop souvent grossiers, qui ont pour sujet les ruses et les perfidies des femmes, ils ne sont pas nés spontanément de la société du Moyen-Âge. Ils proviennent de l'Inde et ils ont leur raison d'être dans le milieu qui les a produits. » Salut. Bon. J'ai sans doute pas besoin de dire combien cette purification ethnique de la littérature médiévale ne doit plus normalement être retenue aujourd'hui, et combien elle paraît mutilante, puisque fabliaux et romans courtois constituent, avec leur forme hybride, nous avons cité le Lettre Graland tout à l'heure, mais il y en a bien d'autres, et souvent pour des publics proches ou similaires, les deux polarités d'un même espace littéraire. Mais la catégorisation historiographique de l'amour courtois procède de cette exclusion philologique. Et c'est intéressant parce que de ce point de vue-là, Gaston Paris est également l'héritier de toute une histoire intellectuelle. Celle qui commence avec la publication, en 1759, des mémoires sur l'ancienne chevalerie de Jean-Baptiste de la Curne de Saint-Palais, qui noue les notions de courtoisie, de galanterie, de chevalerie, pour affirmer la fonction civilisatrice d'un amour chevaleresque typiquement français, mais destiné à imposer à toute l'Europe le raffinement de ses mœurs. Et si cet amour était dit courtois, c'est parce qu'il reposait sur un code issu de ces juridictions galantes qu'étaient les cours d'amour, où l'on allait chercher, avec une respectueuse docilité, les arrêts et les sentences de juges compétents en matière de sentiments. Donc c'est la deuxième origine fantasmatique de la notion même d'amour courtois. Les fabliaux n'ont rien à voir avec tout ça, et d'ailleurs ils ne sont pas français, et l'amour est courtois parce qu'il y a eu des cours d'amour qui rendaient leurs édits et leurs jugements. Alors, Gaston Paris est évidemment un philologue sérieux, plus que ça. Il ne croit pas à l'historicité de ces cours d'amour. Il s'agissait, écrivait-il en 1883, que des jeux de l'esprit, des amusements de société. Je cite ici son article fondateur, paru dans la revue Romania, sous le titre « Études sur les romans de la table ronde, Lancelot du Lac ». Titre assez sobre, mais qui définit, et pour ceux, celles et ceux qui veulent encore l'utiliser aujourd'hui, la notion d'amour courtois. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on comprend au passage que le rapport qu'il entretient, et avec lui la science méthodique dont nous sommes les héritiers, voilà, des rapports très ambigus avec l'histoire des mœurs telles que les Lumières l'ont développée, très ambivalent. Parce que d'un côté, il y a une affirmation d'une rupture par le sérieux philologique, évidemment que les cours d'amour n'ont pas existé, par la rigueur morale, évidemment que les fabliaux n'ont rien à voir avec la littérature française, mais en même temps maintien d'une continuité quant à la dynamique civilisatrice de l'aristocratie française. C'est en tout cas dans ce texte de 1883 que Gaston Paris définit l'amour courtois comme une aventure sentimentale nécessairement adultère. Je cite, il est illégitime, furtif, l'amour courtois. On ne conçoit pas de rapport pareil entre mari et femme. Alors, comme l'a montré Zrinka Stahuljak, quand il écrit ça, nous sommes en plein débat républicain sur la légalisation du divorce, qui dure de 1876 à 1884, et dans lequel, dans ce débat, la littérature romantique de l'adultère est amplement convoquée. Les médecins aussi interviennent pour soutenir les vertus du mariage comme rempart contre la décadence. Il en va du redressement national. On ne parle pas encore de réarmement, mais le cœur y est. Et même les médiévistes doivent y contribuer. Gaston Paris, dans sa leçon d'ouverture au Collège de France, en 1870 aussi, en appelait à ce sursaut. On a vu de nos jours des littératures créer des nations, c'est-à-dire que la conscience nationale, presque complètement éteinte, retrouvait la plénitude de sa force et de sa vie. Regain national qui, on le comprend, est, depuis le XVIIIe siècle, inévitablement un regain aristocratique. Et là, effectivement, on peut tirer le fil jusqu'à Denis de Rougemont. Nous ne cessons en somme de parler, et moi aussi, depuis la première séance, sans doute, et je devrais vraisemblablement le préciser plus nettement, des formes aristocratiques de l'amour. Ou plus exactement, de ce que l'historien américain Stephen Jäger, spécialiste des littératures germaniques médiévales, a appelé dans un livre important, publié en 1998, « The Ennobling Love », l'amour ennoblissant, c'est-à-dire l'affirmation d'une supériorité sociale par la noblesse des sentiments, ce qui suppose de les exprimer, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça qu'on tentera de comprendre aussi la semaine prochaine, d'une manière à la fois intense, il faut que ça soit expressif, il faut que ça soit violent, il faut que ça soit véhément, et distancé. Et de cela, Denis de Rougemont a eu sans doute, je crois, la prescience, mais peut-être parce qu'il y est, lui, pleinement aussi, lorsqu'il écrit en 1939 dans L'amour en Occident, « Dès le XIIe siècle provençal, l'amour était considéré comme noble, non seulement il ennoblissait, mais encore il l'annoblissait. Les troubadours accédaient socialement au niveau de l'aristocratie, qui les traitait comme des égaux, et c'est de là que nous vient, par la littérature, cette idée toute moderne et romantique que la passion est une noblesse morale qu'elle nous met au-dessus des lois. » Ce qui l'intéresse aussi lorsque ça passe en politique, évidemment. Sans doute est-ce le cas de Tristan, comme de Solal, mais aussi de Bernard de Clairvaux. Car l'aristocratie dont l'on parle est celle du second Moyen-Âge, d'après le XIIe siècle. C'est-à-dire qu'elle est double. C'est celle des communautés combattantes, fondant leur prééminence sociale sur leur aptitude à la guerre. Et c'est celle de ces aristocraties de la prière, formant également des communautés viriles dans les monastères, qui subliment les valeurs de la chevalerie, et surtout Bernard de Clairvaux, évidemment, et vivent leur christianisme de combat comme une guerre sans merci contre les puissances invisibles. Et dans les deux cas, ces communautés émotionnelles qui s'ennoblissent par une pratique élevée de l'amour, si haute et si risquée qu'elle ne peut rester indemne d'une familiarité avec la mort. Voilà pourquoi les deux corpus textuels que nous avons successivement abordés, bibliques la semaine dernière, littéraires aujourd'hui, ne peuvent être séparés comme l'on partagerait un corps entre le spirituel et le charnel. Et c'est justement ce seuil indistinct que nous retrouvons peut-être la psychanalyse lacanienne avec l'important ouvrage que Charles Baladier, prêtre et psychanalyste, fit paraître en 1999 sous le titre « Eros au Moyen-Âge, amour, désir et délectatio morosa ». J'en avais dit un mot à la première séance. Qu'est-ce que la délectatio morosa ? C'est un plaisir dans lequel on s'attarde. Placé entre le désir et son accomplissement. Et qui est déjà un plaisir. Que les moralistes voient surgir comme un motus primus sensualitatis, un mouvement premier de sensualité. Il n'a rien d'attristant, car l'adjectif morose, morosa, a une double étymologie, et ici il ne vient pas de mos moris, qui a donné notre morosité, mais du verbe moror, qui signifie s'arrêter, prendre son temps et s'y complaire. Donc la délectatio morosa, les théologiens la placent, avec la délectatio morosa, les théologiens placent donc le plaisir entre le désir d'un objet et sa possession. Donc, dans, on va dire, l'espace du fantasme. Or, ce que montre Charles Baladier, c'est que, peut-être d'ailleurs sans les lire, les troubadours partagent cette même conception d'un plaisir fou dans une attente insupportablement délicieuse qui confine à l'ascétisme, mais qui n'est en rien désincarné. La délectation est alors indéfiniment prolongée, savourée, comme dans l'œuvre extraordinaire du troubadour aquitain Geoffrey Rudel, de la première moitié du XIIe siècle, qui lui est tombé follement amoureux de la comtesse Mao de Tripoli, en entendant vanter sa beauté par des croisés revenus d'Antioche. Donc, même triangulation sans doute. Mais chantée par Rudel, la délectatio morosa est cet amour de loin pour la dame de mes pensées qui fait le plus noble des sentiments. Et de ce point de vue-là, il y a effectivement une commune émotion entre l'aristocratie de la prière et l'aristocratie du combat. Dans un livre important qui est paru à Chicago en 2012, sous le titre « The Making of Romantic Love », l'historien William Reddy entreprenait une fascinante comparaison entre les arts d'aimer du Finamore dans l'Europe courtoise et au même moment, dans le Japon de l'époque Heian, la littérature bouddhiste et celle de ces kanamiki, c'est-à-dire de ces journaux essentiellement féminins qui décrivent de manière très sensuelle une intériorité agitée par l'amour. Et puis il avait pris aussi la poésie du Bengale et d'Orissa à l'est de l'Inde. Et ce qui se ressort de cette histoire comparée, c'est que si l'opposition entre l'amour vrai et le désir sexuel ne se trouve qu'en Occident, croit-il, on a vu ensemble que cette opposition devait être nuancée, elle se retrouve nulle part ailleurs et que partout s'observe en revanche l'opposition entre les émotions grossières, bhava, en Inde, et les sentiments raffinés, rasa, un dualisme qui en Inde donc et au Bengale distingue un amour luxurieux et spirituel d'un amour luxurieux et banal. Mais on ne retrouve pas donc la même séparation entre le ciel et la terre, mais l'évidence hiérarchique entre le haut et le bas, qui est, sinon universelle, du moins universalisable. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que Jean-Paul Sartre reprochait à Denis de Rougemont d'avoir historicisé l'amour et non l'Église. Il eût été plus inspiré de faire l'inverse, écrit-il, mais Sartre est décidément bien trop sentimental. Cette histoire d'amour courtois, d'ailleurs, c'est assez intéressant, ça m'a intrigué de suivre cette piste, n'a jamais cessé, à partir du moment où il lit Denis de Rougemont et que ça l'énerve, il le relit encore pendant la guerre, il y revient dans les années 50, et au moment de mourir, il a encore un article énorme qui a été inachevé, qui a été publié dans les temps modernes en 2007, qui s'appelle « Pour une psychologie de l'homme féodal », où il revient sur cette question de l'amour courtois, parce que, d'une certaine manière, il y a quelque chose qui bloque pour lui, qui bloque justement les chemins de la liberté. Parce que la politique de l'amour, c'est aussi une domination sociale. C'est un ennoblissement par l'intensité et le raffinement d'une émotion qui l'éloigne évidemment des plaisirs immédiats des fabliaux. Mais il faut comprendre que les aristocrates aimaient aussi ces plaisirs immédiats et qu'ils lisaient les deux, eux. C'est un jeu. Oui, sans doute. Mais un jeu qui, et c'est fondamental, laisse une part au féminin et ouvre, sinon des chemins vers la liberté, du moins une capacité d'agir aux femmes. Précisément dans cette espace de la d'Ilexio Morosa. J'ai dit tout à l'heure que le lait du chèvrefeuille de Marie de France était de datation incertaine, et je ne m'aventurerai évidemment pas dans les débats érudits à ce sujet. Mais si l'on retient la date de 1165, qui est celle que Christiane Markello-Nisière, toujours elle, propose dans le volume de la Pléiade, paru en 1995, sur les premières versions européennes du légendaire tristanien. Si c'est 1165, alors ça en ferait la première mise en vers de l'histoire commune de Tristan et Iseut, et que cette primauté appartienne à l'œuvre d'une femme n'est pas totalement indifférent. C'est un jeu, oui sans doute, mais un jeu dangereux, pour les femmes comme pour les hommes. Un jeu où on peut se laisser prendre, un jeu où la mort n'est jamais bien loin, un jeu où évidemment on peut se perdre dans cet espace étiré, raffiné, cruel, entre le désir et son assouvissement, un jeu où on peut se perdre dans ses effets de voile, et tout perdre, en fait, dans ce jeu de miroir qui est aussi, Georges Duby l'a dit, une parade du pouvoir, où à un moment on ne contrôle plus rien. Georges Duby disait de la dame du triangle courtois qu'elle n'était qu'un voile et, je le cite dans son article sur l'amour courtois, un paravent au sens que Jean Genet donne à ce terme. Jean Genet, vraiment ? Alors dans ce cas, ça devient vraiment dangereux. En 1187, on a vu Richard Cœur de Lion, le fils du roi Henri II d'Angleterre, qui lui avait confié quand même le quart de son armée pour combattre en France, on l'a vu entrer sous la tente de son adversaire, le roi Philippe Auguste, et ne plus en sortir. Que va-t-il se passer? Je cite le chroniqueur anglais Roger de Hoddon. Henri II était profondément étonné par l'amour véhément, qui existait entre eux, et se demandait ce qu'il pouvait signifier. À la semaine prochaine.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.